Vous avez déjà entendu le mot « émotion », le mot « affect » dans les deux conférences précédentes. Il y aura question de ça. On n'a pas utilisé le mot « pathos ». On n'aime pas utiliser le mot « pathos ». Baudelaire disait, en parlant d'Edgar Poe, qu'il y a, dans l'histoire littéraire, des êtres dont une destinée fatale est dessinée sur le front. Il y a aussi dans l'histoire des mots cette sorte de malheur. Et cette sorte de malheur a frappé le mot pathos. Je prends la définition du dictionnaire de 1702 de Furtière, qui reprend une édition précédente d'il y a de 15 ans auparavant. Et vous verrez que les lettres de noblesse du pathos et des pathés d'Aristote dans la rhétorique et dans l'éthique à Nicomaque, sont lointaines. Pathos, substantif masculin. Ce mot est grec et signifie passion. Il ne s'emploie que pour signifier le mouvement que l'orateur excite dans les auditeurs et n'est en usage que dans la conversation et dans le comique. Ça va mal, hein ? Il y a bien du pathos dans ces discours. On reprend la définition de l'Académie. Et après, le comique arrive, c'est Molière, hein, avec les précieuses ridicules et cette allusion à Aristote avec le pathos et l'ithos, ithos et pathos. Ça va mal encore dans les années 70, très mal, dans la bataille, comme disait Julia Kristeva, de la raison contre l'émotion et dans la bataille du modernisme contre les émotions. Et regardez, dans le dictionnaire Larousse de 76, on reprend tout ce que j'ai lu dans les dictionnaires précédents de Furtière et on ajoute quelque chose, une citation, entre guillemets. C'est de Sodome et Gomorre de Proust. C'est Brichot qui parle. « J'ai lu ces illusions perdues dont nous vous parlez, baron, Charlus, en me torturant pour atteindre à une ferveur d'initié. Et je confesse en toute simplicité d'âme que ce roman-feuilleton, rédigé en pathos, en galimatia, double et triple, m'ont toujours fait l'effet des mystères de Rocambole, promus par inexplicable faveur à la situation précaire de chef-d'œuvre. » C'est donc Brichot qui parle, mais ici il y a la cruauté de la citation coupée du contexte, parce qu'auparavant il y avait le baron justement qui disait au narrateur « Comment vous n'avez pas lu les illusions perdues ? Mais c'est magnifique, il faut lire ce texte. » Alors je crois qu'aujourd'hui, dans le Barthes que je suis en train de revisiter, et aussi avec mon intérêt pour les émotions, je voudrais vous dire qu'il y a chez Barthes du Charlus et du Brichot. L'un après l'autre, les deux à la fois, les deux séparément. Peut-être ce que je voudrais vous dire, pour être résumé de manière simple par un parcours chronologique, il y a un premier Barthes qui est contre le pathos, comme il faut le faire au nom de la raison et au nom du modernisme, et il y a un dernier Barthes qui est pour le pathos. Nous avons tous en tête ce roman du pathos, le pathos qu'il faut reprendre, réhabiliter, comme disait Julia Kristeva. Mais ce n'est pas bien, cette chronologie. Je voudrais faire un peu ce que Georges Didier Berman a fait, un travail de montage. Et je voudrais vous donner à ma parole la force de l'image photographique, du montage photographique et cinématographique, à savoir projeter en même temps dans vos yeux et dans votre esprit des temporalités différentes. Et alors, il y aura la temporalité de la durée, des changements dans la durée, le premier Barthes, le deuxième Barthes, le troisième Barthes, si on veut, le Barthes contre, le Barthes pour, le pathos. Mais il y aura aussi une temporalité qui est celle de l'imparfait, de l'habitude de recherche qui est dite par Barthes avec une métaphore à laquelle il recourt très souvent et très tôt, celle de la spirale, c'est-à-dire les choses reviennent, mais à un autre lieu. Et je voudrais aussi enchaîner cette temporalité violente, unique, du passé simple, hein, qui est celle de la crise, du moment de la mort de sa mère, hein, du deuil, de la conversion, de ce qui amène à la Vita Nova. Mais peut-être je dois faire un petit parcours, puisque je n'arrive pas à faire un montage cinématographique. Le pathos, oui, la raison a été toujours contre le pathos. Et je dirais que dans notre tradition française, qui est si marquée par le kantisme, cette peur du pathos perdure. Et je ne peux pas m'empêcher de citer Kant dans son Anthropologie, où il dit très bien que dans l'émotion, l'esprit perd l'empire de soi-même, elle, l'émotion croit rapidement jusqu'au degré de sentiment qui rend la réflexion impossible, et l'émotion agit sur la santé comme une attaque d'apoplexie, la passion comme une phtisie ou une consomption. Vous voyez, c'est très très mauvais, c'est toute la tradition philosophique qui a gagné, c'est l'impérialisme kantien, contre lequel il y a deux autres traditions. Une magnifique du XVIIIe siècle, écossais et irlandais surtout, en langue anglaise, Hume, Burke, Hazlitt, mais avant encore, Hutchinson, Shaftesbury, et de l'autre côté, une tradition du XXe siècle qui a refusé le kantisme, qui est celle autrichienne du début du siècle, très influencée par Brentano, et qui trouve sa forme la plus parfaite chez Robert Musil, le grand écrivain autrichien du XXe siècle, du début du XXe siècle. Oui, ça va mal alors pour le pathos. Et Barthes participe de ce malheur, de cette destinée fatale du pathos. Et il le dit très clairement dans ses textes sur Brecht, au moment du grand enthousiasme brechtien, marxisto-brechtien, et il le dit très clairement, le moment de l'enthousiasme anti-occidental du théâtre des marionnettes Bourracou, et je reprends quelques mots de son texte sur les sons d'écriture, donc sur les marionnettes japonaises. Il y a un contraste, le contraste entre le mauvais, qui est l'occidental, le pathos, le pathétique, et le bon, qui est le japonais, qui est le différent, qui est celui qui ne vit pas dans ce contraste. Sa fonction du théâtre occidental est essentiellement de manifester ce qui est réputé secret, le sentiment, les situations, les conflits. Les substances empoisonnantes du théâtre occidental sont dissoutes. L'émotion n'inonde plus, ne submerge plus, elle devient lecture. Les stéréotypes disparaissent sans que pour autant le spectacle verse dans l'originalité la trouvaille. Tout cela rejoint bien sûr l'effet de distance recommandé par Brecht, plein modernisme, vous le voyez, qui fut le premier, il faut peut-être le rappeler, à comprendre et à dire l'importance critique du théâtre oriental. Oui, Barthes a parlé des émotions aussi dans ces années-là, dans les années 70. Il fallait le faire en faisant son long texte dans la revue Communication du janvier 1970 sur l'ancienne rhétorique, aide-mémoire. Donc il fallait bien passer par les topiques d'Aristote et rappeler ces topiques. Mais le projet, regardez, il est entouré de ce contre. Une voix très proche de ce texte, donc ce nouveau texte qu'on attend dans une sorte d'épiphanie de la modernité, est de savoir partir de quoi et contre quoi il se cherche. Et donc, de confronter la nouvelle sémiotique de l'écriture à l'ancienne pratique du langage littéraire qui s'est appelée pendant des siècles la rhétorique. Vous allez contre. Le nouveau texte est contre la rhétorique, contre les topiques d'Aristote, contre la faveur d'Aristote pour le pathos ou les pathés, qu'il dit au pluriel, Barthes, lorsqu'il parle de ces topiques. Mais, comme le savait Musil, et Stendhal aussi, les émotions s'infiltrent partout. Elles se glissent, même si on ne veut pas. D'ailleurs, les émotions, on ne peut pas les provoquer. Ce n'est pas un acte de la volonté. Ils sont là. Et Barthes aussi est pris, tout en étant contre le pathos, est pris par la présence des émotions. J'aurais envie de citer un texte, « Je ne crois pas aux influences », un entretien de la fin des années 50, début des années 60, il me semble, où il dit « La littérature, le relais entre l'histoire et la littérature sont multiples ». Et peut-être la critique doit vraiment s'interroger sur ce relais et comprendre la manière dans laquelle la littérature a toujours affaire avec le malheur, donc la souffrance, le pathos des êtres humains, ce qui est son véritable sujet. Il dit ça dans les années 60. Mais aussi, il y a d'autres émotions qui sont là, peut-être sans le savoir. Et le Barthes des années 70 en fait preuve. Il le dit peut-être de manière involontaire. C'est les émotions qu'on appelle aujourd'hui épistémiques, c'est-à-dire les émotions liées à la connaissance. Valérie était très attachée à ces émotions. L'attention, l'intérêt, l'enthousiasme, l'entêtement dans la recherche, l'étonnement. Première émotion philosophique. C'est non seulement Platon qui en parle, mais son élève, bien meilleur que Platon, évidemment, du côté des émotions, puisqu'il n'est pas contre le thumos, le pathos, hein, c'est le début de la métaphysique. Aristote dit « Toute philosophie commence, toute pensée commence par l'étonnement. » Donc, c'est la grande émotion cognitive par excellence. Et regardez, hors de mes débuts, dit Barthes, j'éprouve le même intérêt qu'aujourd'hui, ou si vous voulez, la même obsession, la signification. Regardez, intérêt, j'ai poursuivi, j'étais marqué, très important, grande découverte, enthousiasme. Nous avons là toute la foule des émotions épistémiques, des émotions qui amènent à la connaissance, de ces émotions qui, comme le disait Julia ce matin, sont pleines d'énergie. Et peut-être il y a déjà là, hein, dans ces temporalités que je voudrais vous faire vivre en même temps, il y a déjà là le Barthes de la chambre claire, puisque la chambre claire, c'est vraiment le résultat le plus parfait de la collaboration entre des types différents d'émotions. Il commence, le livre La chambre claire, par des émotions épistémiques. Je veux découvrir l'essence de la photographie, dit Barthes, je fais de la recherche. Et après, vous le savez, c'est l'autre type d'émotion, hein, qui est lié à la mer, des émotions que Stendhal aurait appelées des émotions tendres, des émotions liées à l'amour. Reprenons le Barthes militant du modernisme des années 70. Dans Le grain de la voix, il reprend ce qui était le thème anti-émotionnel, anti-pathétique de ses textes sur Brecht et de ses textes sur le Japon. C'est le contraste entre la mort de Boris à l'opéra et celle de Mélisande. La mort de Boris est expressive, ou si l'on préfère, hystérique. Elle est surchargée de contenus affectifs. Historique. Toutes les exécutions de cette mort ne peuvent être que dramatiques. C'est le triomphe du phénotexte, l'étouffement de la signifiance sous le signifié de l'âme. Mélisande, au contraire, ne meurt que prosodiquement. Le pathos, c'est-à-dire, selon Aristote, pourquoi pas, la passion telle que les hommes la parle, l'imagine, l'idée reçue de la mort endoxale. Mélisande meurt sans bruit. Entendons cette expression au sens cybernétique. Rien ne vient troubler le signifiant, et donc rien n'oblige à la redondance. La mort de Mélisande émeut, entre guillemets, et entendez après, cela veut dire qu'elle bouge quelque chose dans la chaîne du signifiant. Vous voyez, on a reconnu les émotions, mais entre guillemets, dans cette horreur du pathos et de l'émotion, et modernisme oblige, hein, la critique littéraire, les théories, hein, sont comme nos vêtements. Hein, on retrouve dans les photos de vêtements d'il y a 20 ans, et ça nous fait un peu étrange. Hein. Et là, vous voyez le vêtement critique, hein, ressenti, important et juste de ces années-là, à savoir, pour justifier l'émotion, puisqu'on ne peut pas parler du potence, on ne peut pas tomber de ce côté-là, il faut bien dire que quelque chose bouge dans la chaîne du signifiant. Phrase assez mystérieuse, hein, je défie quiconque à expliciter véritablement qu'est-ce que ça veut dire. Mais cette tension-là, elle est bien une tension connue par la littérature, et par la littérature du XIXe siècle, une certaine littérature du XIXe siècle qui s'est insurgée contre le côté larmoyant de Lamartine. Nous reconnaissons Flaubert, Stendhal aussi avant, et Baudelaire. Tout le projet est celui d'avoir le sentiment sans le sentimentalisme. Mélisande meurt, elle émeut, sa mort émeut, mais il n'y a pas de redondance. On aurait envie, en reprenant le Barthes, le dernier Barthes, le dernier article de Barthes laissé dans sa machine à écrire sur Stendhal, on échoue toujours à parler de ce qu'on aime, et on aurait envie, hein, de voir là la lutte stendhalienne contre, hein, le style redondant, boursouflé, selon lui, de Chateaubriand et de Madame de Staël, qui dit « plein de fausseté ». Dans une belle image du Barthes par lui-même, il y a la famille sans le familialisme. Et au fond, ici, tout le projet, hein, devient de plus en plus le sentiment sans le sentimentalisme. Et le moment de vérité arrive. Nous sommes en 78, nous sommes après l'année tragique 1977, nous sommes dans la Vita Nuova, et c'est dans longtemps je me suis coché de bonheur, hein, un des textes les plus nouveaux de Barthes, que ce moment de vérité arrive. À supposer qu'on accepte d'en faire une notion analytique impliquerait une reconnaissance du pathos au sens simple, non péjoratif du terme. Et la science littéraire, chose bizarre, reconnaît mal le pathos comme force de lecture. Et évidemment, aujourd'hui, les choses ont changé. Une des choses qui intéresse le plus, une certaine tendance, the emotional turn, aime dire les anglophones, d'aujourd'hui en philosophie analytique et en critique littéraire, ça commence aussi, c'est justement de s'interroger sur les effets de lecture. Et en s'interrogeant sur les effets de lecture, comme en s'interrogeant sur les photographies et l'émotion que la photographie suscite, on ne peut pas ne pas s'interroger sur les émotions que la lecture nous donne. Et voilà que Barthes y est en plein. Je ne parle pas ici d'une œuvre, mais d'un bouleversement. Ce bouleversement a pour moi son sommet à la mort du prince Bolkonski, au dernier mot qu'il adresse à sa fille Marie, à l'explosion de tendresse, mot stendhalien par excellence, qui sous l'instance de la mort déchire ces deux êtres qui s'aimaient sans jamais tenir le discours, le verbiage de l'amour. Comment ne pas penser à Stendhal qui écrivait à Madame Gaultier « Je vous en prie, cher ami », en corrigeant son roman, et d'ailleurs il a pas mal copié puisque c'était un peu le fond de son Lucien Levin, il lui disait « N'utilisez jamais dans votre roman octave, tomba, follement, amoureux d'Hélène, ce serait contre la pudeur de l'écrivain ». Et voilà, c'est une pudeur, une délicatesse que Barthes réclame, hein, cette mort, hein, sans bavardage, sans verbiage. Et aussi, évidemment, l'autre scène, la mort de la grand-mère, c'est un récit de pureté absolue. Je veux dire que la douleur y est pure, dans la mesure où elle n'est pas commentée, et où l'atroce de la mort qui vient, qui va se séparer à jamais, ne dit qu'à travers des objets et des incidents indirects. Encore un motif profondément stendhalien. Je veux rendre au lecteur le son de l'archer de son cœur et pas les décrire. Et mouvement dernier, si vous voulez, mais dans un dernier qui n'est pas vraiment chronologique, parce que comme je vous disais, j'aurais envie d'avoir cette temporalité concentrée, parce qu'on peut penser aussi que le Barthe, tout jeune, lorsqu'il était au sanatorium, il se nourrissait de cette littérature du XIXe siècle, de cette littérature romantique qui est pour le pathos, contre le pathos, pour le sentimentalisme, contre le sentimentalisme, pour les émotions. Donc, ce n'est pas vraiment une chronologie. Voilà que Barthes a le courage d'une autre modernité, de la modernité de la passion, non seulement pour l'œuvre, comme vous le voyez ici, de ce bouleversement de l'œuvre, mais la passion aussi pour les auteurs, et pour les auteurs qu'on voit, pour ainsi dire, dans la faiblesse même de la chair et du corps, c'est-à-dire les auteurs qui meurent. Et je le contraste comme, si vous voulez, une image à l'Eisenstein, contraster l'obvi et l'obtus entre ce qu'il dit en 1954 dans son article sur Brecht. Notre art traditionnel, romantique, bourgeois, réaliste, sur ce point, c'est tout la même chose, veut essentiellement engluer acteurs et spectateurs dans une même vision psychologique du rôle. L'idéal pour lui, c'est de supprimer tout recul entre le personnage, son interprète et son voyeur. C'est un art de la participation totale. Horreur. Mais regardez, avec le neutre, les derniers cours... parmi les derniers cours de Barthes, lire l'auteur mort est pour moi vivant, car je suis troublé, déchiré par la conscience de la contradiction entre la vie intense de son texte et la tristesse de savoir qu'il est mort. Je suis toujours triste de la mort d'un auteur, ému par les récits des morts des auteurs, Tolstoï, Gide. Le parcours, vous voyez, l'entêtement fait des retours dans la spirale, et le retour ultime sera ce voyage dans la jubilation mystique qui est si important dans la préparation du roman. J'ai donc voulu essayer de vous parler un peu des formes et des valeurs du pathos chez Barthes. Antoine disait qu'il avait un peu demandé à nous tous de nous dire en quoi Barthes était encore une source d'inspiration totale pour ce que nous faisons. Et sans doute pour moi, il y a, comme pour nous tous, je pense, cette idée de l'entêtement, de la recherche. Je n'ai pas voulu dire, comme ils aimeraient peut-être mes amis en neurosciences avec lesquels je travaille, à Genève, je n'ai pas du tout voulu dire que Barthes a été un précurseur de ce qui se passe aujourd'hui dans le emotional turn, dans les études littéraires. Mais, pour ainsi dire, j'ai voulu rendre hommage à ce qui me semble la partie la plus novatrice, la plus incroyable, la plus exceptionnelle, après le deuil de Barthes, c'est-à-dire la découverte de l'énergie et de l'action dans le neutre et dans la fatigue. Parce que je pense que la fatigue est une émotion et sensation très importante pour la recherche, puisque nous essayons de trouver des choses nouvelles dans le mouvement de la spirale, parce que nous sommes fatigués. Mais la fatigue est une énergie. Merci.